François Annick, salut.
Bonjour.
François Annick, ancien coordinateur de l'association Colère du Présent et donc du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale. Aujourd'hui, tu es directeur de l'Agence Régionale du Livre et de la Lecture des Hauts-de-France. Alors, on va parler avec toi de la fin du Salon, hein, de la fin de Colère du Présent. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous raconter comment toi, tu as croisé le chemin de Colère du Présent ?
Alors c'est un chemin qui date un peu, hein, puisque la première fois que je suis rentré dans Colère du Présent, c'était en 2005, 2004-2005. Donc je l'avais croisé sur des médias, voilà, dans la presse. Je venais d'une grosse structure culturelle qui faisait à peu près tout ce que je voulais pas continuer à faire. C'était l'île 2004, capitale européenne de la culture, portée par le MEDEF et d'autres, et qui a été hyper important pour la ville de Lille et son image, mais qui était très loin des habitants. Et quand j'ai vu ce que faisait Colère du Présent, moi ça m'intéressait, et donc j'ai contacté l'asso, j'ai vu un numéro de téléphone, j'ai appelé, c'était Didier, et donc j'ai très vite rencontré, on s'est très vite dit qu'on allait faire des choses ensemble, et donc dès 2005, j'agissais avec Colère du Présent à Lille en tant que bénévole.
Donc bénévole d'abord, avant de devenir salarié de l'asso, c'est ça ?
Ouais, j'étais bénévole de 2005 à 2009. J'étais bénévole et missionné en tant que prestataire extérieur en 2009-2010, un petit peu 2011, puis salarié, tout en faisant des choses à côté, de 2011 à 2021. Et puis j'ai été à nouveau bénévole 2022, 23 et 24 jusqu'au bout.
Alors tu as parlé un petit peu de ce qui te plaisait dans la démarche, hein, de faire de la culture avec les gens. Qu'est-ce qui t'a intéressé aussi, le rapport au livre, j'imagine, l'éducation populaire, enfin, comment tu vois un peu les choses, qu'est-ce qui fait que ça a matché entre toi et Colère ?
Bah, ce qui a matché entre moi et Colère, c'est qu'effectivement, alors le livre, ça a toujours été une passion personnelle, voilà, qui est certainement liée à mon éducation bourgeoise ou tout ce qu'on pourrait dire, et qui a été d'ailleurs peut-être un élément difficile à gérer dans Colère du Présent, mais ça on pourra y revenir. Mais en tout cas, oui, le livre, ça a toujours été une passion. Après, ce que moi j'ai trouvé comme intérêt, parce qu'on n'est jamais adhérent d'une association complètement de manière désintéressée, il y a aussi des choses qui nous intéressent et qui nous animent quand on va dans une asso, c'est tout le côté éducation populaire, travail avec les populations éloignées du livre, travail sur les territoires. Et dès le départ, en fait, c'est ça aussi qui m'a animé. J'y connaissais rien du tout. Moi, je suis pas du tout issu de ces mouvements-là, donc ça m'a beaucoup appris à la fois sur comment faire avec les gens et par les gens et pour les gens, et ensuite, et surtout avec ce qu'ils ont envie, surtout, d'être là au service d'eux, en fait. Et puis aussi de découvrir des champs de la littérature que je connaissais mal, comme le roman noir. Ça, c'est la fréquentation de Guy Desnevski, notamment, mais pas que. Tous les auteurs du polar, du roman noir, du néo-polar, de tout ce qu'on peut imaginer de ces champs-là, qui m'ont fait découvrir des choses que je ne connaissais pas. Et ça, ça a été vraiment des moteurs aussi d'envie. De venir dans l'association.
Alors, les gens différents font des choses différentes, de manière différente. Est-ce que le salon, quand tu as commencé à le coordonner, est-ce qu'il était différent de celui qu'il était avant, quand Didier ou d'autres le coordonnaient ?
Alors, moi, j'ai un parcours de bénévole dans l'asso. Je vois des choses qui me plaisent pas trop dans la vie d'une asso. De toute façon, il y a toujours des choses positives et négatives, des choses qui me plaisent. Ouais, voilà. Donc je me retrouve à organiser des choses un petit peu comme ça, de donner des coups de main comme il faut, quand il faut. Et puis il arrive effectivement une première crise dans l'association. Je pense qu'une association qui s'appelle Colère du Présent n'est pas une association neutre. Donc la question de la vie et de l'émotion est au cœur même de son nom et de son activité. Et donc en 2009, 2000, à peu près, oui, 2008, 2009, 2010, l'asso vit une crise que j'analyse aujourd'hui comme une crise existentielle, qui était soit on s'institutionnalise, comme l'a pu le dire Didier Andreau dans l'émission précédente, soit on s'arrête. C'est vraiment un moment un peu de charnière. Et un moment de charnière qui, en plus, était lié à peut-être des errements un peu internationaux plutôt, avec peut-être aussi des visions assez anciennes, néocolonialistes de l'action du livre en Afrique, par exemple. Donc des choses qu'il fallait qu'on arrête, des choses qui ne correspondaient plus aussi aux nécessités du moment, et des grosses difficultés financières inhérentes aussi à ces choses qui, par ailleurs, étaient hyper intéressantes sur le papier, mais qu'une association aussi petite que Colère du Présent ne pouvait pas porter. Donc je me retrouve à cet endroit-là et on me convoque, entre guillemets, Didier Andraud, Guy Lesniewski, Max Gaillard, Éric Bellineau, Jocelyne Canfin, dans une, à la cave du Ch'ti, dont on a parlé d'ailleurs en première émission aussi, qui était un peu un QG pendant un temps. C'était vraiment un endroit où on a fait beaucoup de fêtes assez intéressantes. On oublie des fois quelques heures de ce qui s'est passé là-bas et c'est des fois tant mieux. Mais bref, donc on se retrouve à discuter en fait de qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait après, comment on peut faire après. Et puis Max me pose la question, mais toi, en tant que travailleur indépendant, est-ce que ça te dirait d'avoir une mission pour essayer de sortir Colère du Présent de l'ornière, trouver une solution, voilà, être un peu missionné sur le truc. L'asso avait déjà eu des salariés. Il y a eu Hugo Bouquet, il y a eu d'autres comme ça, il y a eu 3-4 personnes qui ont été salariées. Didier Andraud a essayé d'être salarié aussi. Bon, on sait que le travail salarié dans une association, c'est très compliqué, surtout quand on est militant déjà dans cette association-là. Et ben, j'ai accepté, puisque ça faisait partie aussi des choses que je faisais par ailleurs. J'animais des ateliers en prison, dans les centres sociaux, etc. Donc je me suis dit, on y va quoi. Et avec Guy, avec Eric, avec Marie-Christine et d'autres, plusieurs on s'était dit mais non, il ne faut pas que ça s'arrête. Donc effectivement, je me retrouve la main prise dans l'engrenage avec une personne que j'ai toujours adorée, c'est Jocelyne Canfin, qui me disait n'y va pas, tu vas y perdre ta vie, ta jeunesse. Et en même temps, ça a été une ouverture à plein de choses. Beaucoup de difficultés, beaucoup de passion, beaucoup d'émotions et ça a été l'aventure de ce boulot de salarié d'une association comme Colère du Présent.
Toi, tu es plutôt fan de bouquins, alors qu'à la base, il y a des gens qui viennent du travail social, qui ont peut-être une autre démarche par rapport aux événements culturels. Est-ce que, comme ça a pu être dit aussi dans la première interview, quand tu as coordonné l'association, tu penses que l'éducation populaire était mise de côté ? Comment tu vois les choses, toi ?
Ah. Alors, moi je pense qu'il y a. Enfin, du coup, votre découpage est plutôt intéressant d'avoir les trois parties. Alors, je ne sais pas s'il y aura une troisième partie, mais en tout cas, ça pourrait être intéressant d'avoir la troisième partie qui est celle présidée par Carole et avec Stéphanie en coordination. Mais la partie qui me concerne, les 10 ans où j'ai été coordinateur de l'association, avec en président Éric Bellineau, en trésorier Max Gaillard, puis Marie-Christine Bellineau, puis il y a eu aussi Thérèse Chiarello comme présidente. Enfin, toute cette nouvelle association qui s'est créée. Autour de ce projet à partir de 2011-2012 correspond aussi à une nouvelle étape dans la vie autour de Colère du Présent. Il n'y a pas que Colère du Présent dans la vie, on ne peut pas analyser Colère du Présent que par Colère du Présent. Déjà sur le plan littéraire, il y a eu une énorme évolution, c'est qu'entre le moment où l'asso s'est créée et 2010, le champ du social, la littérature du réel, la littérature de témoin de son temps, comme l'appelle souvent Guy, est devenue non pas une niche du roman noir ou du travail de l'écriture sociale, mais est devenue majeure. Quand Mélisse de Kerangal reçoit un prix pour Naissance d'un pont, on est en 2010. Quand Thierry Bastingel parle du retour aux mots sauvages sur les plateformes téléphoniques, on est en 2010. Quand Pierre Lemaître sort du noir pour être publié dans La Blanche et va devenir un prix Goncourt. Quand, voilà, c'est tout un mouvement en fait, qui s'est vachement généralisé. Et aujourd'hui, la littérature du réel est devenue l'élément majeur de vente de livres. Et le roman noir fait partie, a été intégré finalement dans ce mouvement littéraire. Donc effectivement, il y a eu une évolution dans la programmation qui est liée aussi à une évolution de la vie artistique. Je pense que les questions du social, les questions de l'environnement, les questions de l'engagement, les questions des luttes sont devenues à nouveau majeures dans l'édition française. Et les éditeurs qu'on invitait et qui ont été invités sur le salon du livre, les éditeurs indépendants, étaient témoins aussi de leur temps et donc ont surfé sur ces sujets. Et de ce fait, oui, la programmation a évolué pour être en phase avec la réalité éditoriale. La programmation a évolué. Aussi parce qu'avec Éric Bellineau, le président de l'époque, et puis Max Gaillard, le trésorier, et puis tous les autres donc, que j'ai déjà cités, mais aussi Annick Delafray de Courrières, tous les bénévoles en fait, militants qui se sont à nouveau engagés dans l'association à partir de 2012-2013, quand Didier en est parti et quand Guy s'est éloigné, donc tous ces nouveaux mouvements en fait, bénévoles au sein de Colère, s'est dit qu'il faut se connecter aussi aux luttes d'aujourd'hui. Bien sûr, les luttes du monde ouvrier sont essentielles. On a continué, bien sûr, à inviter les veuves de la viande. On a invité les travailleurs du sucre à Amiens. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a eu Eric Louis qui est venu sur la question justement de ceux qui cassent le sucre à la pioche dans les grands silos de sucre aujourd'hui encore. Voilà, qu'on en voit dans les silos pendant 8 heures, 6 heures de travail comme ça à la pioche. Bref, le monde du travail a toujours été au cœur de la programmation. Mais il fallait quand même laisser de la place aux nouvelles luttes d'aujourd'hui, aux luttes aussi où de nouveaux laboratoires de démocratie ou de vie collective se font. Donc sont venus des gens des ZAD, Notre-Dame-des-Landes était là, Bure, la lutte contre les enfouissements des déchets nucléaires, des gens comme ça, à Grenoble, des gens qui luttent aussi contre les autoroutes, et cette question de la lutte. Et donc cette question de la programmation a été traitée différemment. Et je pense que à partir de 2010, 2011, franchement, on a fait ce qu'on a pu, quoi. 2012, c'était encore pas terrible. Mais à partir de là, on a commencé à construire autre chose avec une association, Colère du Présent, qui était le cœur de l'activité, mais un salon qui s'est développé en collectif, parce qu'on ne pouvait pas tenir ce salon si tout le monde ne s'impliquait pas à l'endroit où il était. Et donc, moi, mon travail, ça a toujours été la coordination, c'est-à-dire faire en sorte que l'association axe principalement le salon, mais sur des axes qui sont travaillés avec les éditeurs, donc un collectif d'éditeurs engagés avec lequel j'étais en lien direct pour essayer de savoir ce qu'ils allaient sortir dans l'année suivante ou les 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard pour essayer de voir comment programmer en fonction de ce qui va sortir dans l'édition. Et puis aussi les collectifs de lutte avec lesquels j'étais en lien direct, de Bure, Notre-Dame-des-Landes, Tropicalia, les Mille Vaches, etc., le collectif des associations citoyennes, tous ces mouvements engagés au niveau régional comme au niveau national pour essayer de faire correspondre les sorties éditoriales et les mouvements sociaux. Et ça a été toute la difficulté d'emmener l'association vers ces nouvelles luttes pour ne pas disparaître déjà à l'époque, parce que l'association était sur des luttes parfois anciennes, sur des invités toujours les mêmes. 60 à 70% des auteurs invités étaient les mêmes l'année précédente. Donc essayer de recréer une dynamique et de trouver un moyen de vitaliser tout ça avec des luttes d'aujourd'hui.
Ça fait presque 20 ans de présence dans cette association, ça fait forcément tout un tas de souvenirs, bons ou mauvais. Alors je ne sais pas si, comme ça t'a été prédit, t'as perdu ta jeunesse là-dedans, je crois pas. Mais en tout cas, quel souvenir là tu gardes? Alors forcément, il y en a des centaines et des centaines, mais là, si tu devais en citer 2 ou 3, des rencontres marquantes, qu'est-ce que tu retiendrais?
C'est vrai que là, En fait, ce qui s'est passé aussi à Colère du Présent, c'est que j'étais le coordinateur du salon, parce qu'on m'a représenté comme ça et qu'à un moment donné, il faut personnifier malheureusement un événement. Et donc, c'est un peu la loi du genre. Et en même temps, j'ai toujours gardé un pied sur le terrain en animant des ateliers d'écriture. Il y a des ateliers de conception de livres, des ateliers de débat sur la question de l'amour avec des délinquants sexuels. Moi, je trouve que c'était vraiment très intéressant parce qu'on est parti sur la question du respect, sur la question de l'autre. Bref, il y a eu des choses, mais des milliards de choses incroyables. Enfin, je me souviens d'un débat qu'on avait animé avec vous à PFM, à Mazingarbe, avec des jeunes PJJ. Protection judiciaire de la jeunesse, où ils ont diffusé le film La tête haute. Ils avaient choisi ce film et eux qui ne voulaient pas s'afficher comme des jeunes PJJ ont revendiqué le fait de l'être et ont expliqué que des fois on tombe dans la délinquance malgré soi, et c'était hallucinant comme moment. Enfin, ces moments-là étaient vraiment très forts. Je pense aussi à des auteurs, bien sûr. Il y a eu beaucoup d'auteurs majeurs qui sont venus sur le salon et qu'on a emmené aussi sur le terrain. Une visite guidée des quartiers populaires de Liévin avec Monique et Michel Pinson-Charlot et les habitants de Liévin, ça n'apparaît nulle part dans la programmation, et pour moi c'était un des moments forts aussi de parler de la violence des riches avec quelque part les victimes du système. Et ça a été vraiment un moment très fort. Enfin, je sais pas, il y a eu tellement de choses. Un autre exemple, c'est avec des habitants qui ne savent pas lire, de Lens, avec qui on a mis en place un atelier de lecture sur justement un texte de Mélisse de Kerangal qui s'appelle... c'est sur Kiruna, c'est ça, c'est sur Kiruna, donc c'est les mines de Kiruna. Et l'idée, c'était de parler de la mine. Donc on a fait un atelier de lecture du livre de Mélisse de Kerangal. Et auparavant, on avait fait un atelier d'écriture sur la mine avec les habitants. Et le livre que les habitants ont produit a été envoyé à Mélisse de Kerangal. Et en début de salon du livre, à 9h30, on a fait un accueil café avec les habitants qui avaient préparé une rencontre, des questions pour Mélisse de Kerangal, et Mélis, qui, elle, avait préparé des questions pour les habitants. Et des deux côtés, on a parlé de la mine, on a parlé de la vie, de la littérature, de plein de choses. Et ça, c'est des moments qui n'étaient pas dans la programmation et qui, pour moi, étaient majeurs. Parce que le salon du livre, avec les auteurs importants, reconnus, c'était bien sûr quelque chose. Mais ces moments-là, c'était ce qui est, pour moi, le plus précieux et peut-être le plus difficile à construire, mais le plus important, le plus nécessaire. Faire un événement avec des auteurs connus pour faire venir du public... Bien sûr, on fait venir un public de lecteurs. Si la communication est bien faite, bon là-dessus, ça a toujours été compliqué, mais si la communication est bien faite, que les réseaux sont bien mobilisés, les gens sont là. On met Florence Aubenas, les gens viennent, ils ont envie de la rencontrer. On met Roberto Scarpinato, le juge antimafia italien, avec Edwy Plenel. Forcément, ça fait une double affiche. Alors bien sûr, c'est du travail, je ne dis pas le contraire, et ça a été beaucoup de travail aussi en termes de sécurité. Mais... Bon, il y a quelque part quelque chose d'assez simple, entre guillemets. C'est que si on fait bien le travail en amont, le public vient. En revanche, faire venir des gens, éloigner tout ça sur des sujets aussi complexes, sur la question du livre qui est en plus un marqueur d'une culture bourgeoise dominante, là, c'est vraiment complexe. Et les faire venir pour faire quelque chose sur un événement comme un salon du livre, là, pour le coup, quand on y est arrivé, c'est vraiment, entre guillemets, une satisfaction, bien sûr, une victoire aussi, surtout qu'ils font venir d'autres personnes et que tout ça vient en bus. Et ce sont des moments de découverte et d'échange qui sont vraiment formidables. Et bon, du coup, sur la question de l'éducation populaire, puisque la question a été là au départ, je pense qu'on n'a jamais lâché et qu'il ne faut pas lâcher parce que c'est d'autant plus important aujourd'hui.
Je ne sais pas si tu pourras répondre à cette question. Je ne sais pas si tu avais encore un pied dans l'association, à quel point tu étais proche de Colère ces derniers temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, tout le monde est un peu sous le choc. Liquidation judiciaire, fin du salon, fin de l'association. Qu'est-ce qui s'est passé, selon toi?
C'est compliqué. Il y a une expression que j'ai beaucoup aimée de Didier Andro. On ne tire pas sur le corbillard. Mais effectivement, c'est peut-être un peu tôt pour faire des analyses profondes. Ce que je vois par contre, c'est que effectivement, reprendre une association comme celle-là, sur des bases aussi fragiles économiquement, sur des bases aussi fragiles en termes de militance et de bénévolat, c'est très compliqué évidemment. Quand les forces vives ne sont pas là, surtout après le Covid, ça a quand même pas mal essoré les associations, c'est d'autant plus difficile de relancer une dynamique. Et je pense qu'on a eu une personne, Stéphanie Delcloque, qui connaissait bien l'association, qui a voulu faire autrement. Et quelque part, la difficulté d'un événement, quand on veut le faire évoluer, c'est que si on s'y prend trop brutalement, l'évolution ne passe pas. Et quelque part, dans son envie de changer, peut-être les choses ont été assez brutales. Donc il y a eu une cassure avec des partenariats historiques qu'il aurait fallu de toute façon interroger. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé, c'est reposer la question. Est-ce que le CE des cheminots est juste là pour filer un chèque ou est-ce qu'on ne peut pas construire des choses? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des lectures sur les chaînes de montage. Pour les équipes de nuit par exemple, ce genre de truc où tu emmènes un lecteur et une musicien au milieu des machines pour un moment de lecture. Bon voilà, repenser des partenariats, ça peut être elle a voulu faire autrement et je dis pas, je juge pas parce que c'est toujours très compliqué et je pense qu'on lui a pas donné sa chance non plus dans cette volonté d'inventer quelque chose. Après, il y a eu la question de la finance, des finances de l'association. L'association a toujours couru après sa trésorerie. Ça a toujours été très compliqué de gérer financièrement cette association qui a toujours eu un déficit à résorber, puis ensuite un peu de bénéfices, puis ensuite à nouveau... c'est toujours très compliqué. Quand je suis arrivé en 2009, ça a déjà été le sujet. C'est comment résorber le déficit lorsque le président précédent est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? C'était quand même des dizaines de milliers d'euros à retrouver. Après, on a retrouvé. Après, on a reperdu. Après, on a développé les prestations. Mais des prestations qui sont basées sur des structures qui, elles-mêmes, ont des subventions. Quand on a des baisses de subventions d'un côté, on les a de l'autre. Bref, ça a toujours été compliqué. Donc, je pense que la question de la gestion a été complexe aussi pour Stéphanie qui a repris cette association. Et encore une fois, je lui jette aucune pierre, évidemment, parce que je sais que c'est compliqué pour avoir eu ce poste à un moment donné. Et c'est aussi pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais décidé de partir, c'est qu'on n'est que de passage dans une association, un projet comme celui-là. C'est un projet de société, c'est un projet politique, c'est un projet de tout ce qu'on veut. Mais quand on est aux manettes d'une coordination, il faut faire en sorte que les choses puissent continuer. Voilà. Moi, j'ai toujours considéré que mon boulot était un boulot de passage. Ça n'a jamais été mon association. C'est une association dans laquelle on m'a confié une mission. Et cette mission, bah, j'ai essayé de la transmettre. Après, c'est compliqué, effectivement, de la faire vivre. Ah, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui était un point un peu long. Le deuxième point, c'est le contexte actuel. Alors, pour le coup, Colère du Présent a bénéficié des aides des institutions et des collectivités depuis ce premier jour. Donc ça, voilà. Et ça a continué avec des aides d'urgence, avec voilà, des institutions qui ont compris le rôle d'une association comme celle-là sur le territoire pour les habitants et qui étaient prêtes à aider encore s'il fallait. Mais ce qu'on voit, c'est aussi de manière générale. Hein, là, pour le coup, je prends ma casquette d'agence du livre. On voit des acteurs du territoire, en région de France, mais aussi dans toute la France, notamment des événements qui ont une quinzaine, une vingtaine d'années, qui ont du mal à retrouver leur public, retrouver une énergie, et qui ont du mal à se réinventer aussi. On est dans un contexte où l'engagement bénévole est très compliqué. Voilà, le quotidien, l'engagement à l'année, on voit beaucoup d'engagement sur du one shot, sur une action un peu particulière, un peu spécifique, et puis par contre le travail à l'année dans une association, bah, je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, c'est compliqué d'avoir des gens qui s'engagent sur des réunions tous les mois, tous les 15 jours, voire des fois toutes les semaines. Déjà ça c'est complexe, et donc quand on se retrouve dans la coordination d'un projet comme celui-là, où on se retrouve tout seul face à son ordinateur ou à deux avec Loïc Gassion qui était le salarié également de l'association, c'est parfois, on se sent des fois un peu seul.
Aujourd'hui il y a beaucoup de gens à Arras et ailleurs qui sont attristés par la fin du salon. Avant de commencer l'interview, tu me disais que tu avais beaucoup de témoignages de gens qui t'interpellaient sur ce sujet. Il y a cette question qui peut se poser, il y a des gens qui se la posent, sur est-ce qu'autre chose est possible ? Est-ce qu'il faut continuer à faire quelque chose le 1er mai ? Est-ce qu'il faut continuer à organiser un autre salon ? Comment tu vois les choses, toi, par rapport à ça ?
C'est compliqué parce que... on a tout de suite envie de combler un vide qui se crée là, parce que tout à coup, le 1er mai, on ne sait plus ce qu'on va faire de notre journée. Que c'était un endroit de rassemblement, un endroit d'effervescence, un endroit de plein de choses. Il y avait de la musique, il y avait du théâtre, il y avait des débats, il y avait des amis, il y avait tout ça. Il y avait de la bière, évidemment, avec modération, évidemment. Mais il y avait tout ça, toute cette frénésie. Et donc, on se dit, mais il faut à tout prix que ça reste. Alors, mais la question, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on veut qu'il reste ? Est-ce que c'est notre expérience dans cet événement, est-ce que c'est la portée de l'association dans son travail sur le territoire ? Est-ce que c'est d'avoir rencontré des gens connus ? Bien sûr, on a croisé Eva Joly, on a croisé Alain Damasio, on a croisé Hakan Gundai, on a croisé... Bon. Est-ce que c'est vraiment ça le plus important ? Qu'est-ce qu'on veut faire perpétuer finalement de ce que Colère du Présent a construit sur ce territoire ? Colère du Présent a construit une dynamique... un public qui était là chaque année, des envies de faire ensemble, et ce serait quand même dommage que tout ça disparaisse, évidemment, parce que voilà, une année, deux années sans, et tout à coup tout se dilue, ça va très vite. La construction, c'est très compliqué, la destruction, c'est tellement simple. Et donc effectivement, moi je trouve que c'est super qu'il y ait ces énergies sur le territoire. Je pense qu'il y en a au moins deux ou trois énergies collectives pour faire quelque chose. La question, c'est peut-on faire la même chose avec moins ? Faire au rabais, c'est toujours dangereux parce que du coup, les gens vont venir pour ce qu'ils vont penser retrouver et vont pas le trouver, donc vont pas revenir. Est-ce que c'est pas l'occasion d'inventer autre chose ? En même temps, il y a le symbole du 1er mai, la fête des travailleuses et des travailleurs. Je pense que ça, c'est aussi important de garder quelque chose sur ce 1er mai. Il y avait la musique aussi, les concerts. Est-ce que c'est pas ça qui peut rester aussi ? Enfin. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas si une année d'arrêt, ce ne serait pas aussi bien pour réfléchir à ce qu'on veut faire ensemble. Ça aussi, ça peut être un temps. Voilà. Surtout s'il n'y a pas de moyens, de toute façon, autant prendre le temps de discuter. Voilà. En tout cas, c'est assez émouvant de voir effectivement que ce qui s'est construit le 1er mai depuis 23 ans, que moi, j'accompagne depuis 2005, donc ça fait quand même aussi quelques années, 19 ans, bah que ce temps dans l'année, eh bien, on a envie qu'il continue. C'est assez émouvant de voir que des gens veulent prendre le relais. Je pense que c'est bien que si des gens prennent le relais, ils prennent en main l'ensemble et qu'ils inventent quelque chose. Mais vraiment inventer, c'est-à-dire ne pas reproduire des formes qui ont pu exister. Je pense que c'est la bonne occasion.